Bonjour Bianca. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode des Voix claires autour du monde, on va proposer aux auditeurs un épisode un peu différent. Alors cette fois, on ne fera pas escale dans un seul pays.
On va faire en fait un pas de recul pour parler de différentes causes de cécité évitables dans différents pays du monde.
Nous vous invitons plutôt à découvrir la planète en compagnie d'un homme qui a consacré sa carrière à une mission aussi ambitieuse qu'essentielle, faire reculer la cécité évitable partout sur la planète. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du professeur Serge Resnikov, médecin, ophtalmologiste, chercheur et l'un des plus grands experts internationaux en santé oculaire et en prévention de la cécité. Pendant plus de 40 ans, il a consacré sa carrière à améliorer la santé visuelle des populations partout dans le monde. Avant de se joindre à l'Organisation mondiale de la santé, il a passé 14 années sur le terrain, principalement en Afrique subsaharienne, où il a contribué à développer des services de santé oculaire, à former des professionnels et à mettre en place des programmes de prévention de la cécité.
En 1995, il rejoint l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Quelques années plus tard, il prend la direction du programme mondial de prévention de la cécité et de la surdité. À ce poste, il participe au développement de Vision 2020, The Right to Sight, une initiative internationale qui mobilisera les gouvernements, les universités, les organismes humanitaires et partenaires privés autour d'un même objectif qui est de réduire la cécité évitable partout dans le monde. Son expertise l'a également amené à conseiller de nombreux gouvernements dans l'élaboration de leur politique nationale en santé visuelle. Aujourd'hui encore, il poursuit son engagement comme professeur et conseiller international. Il préside notamment l'Organisation pour la prévention de la cécité qui soutient le développement des soins oculaires en Afrique francophone ainsi que le conseil d'administration de l'International Myopia Institute.
Et c'est pas terminé, Bianca. Chercheur prolifique, le professeur Resnikov est l'auteur de plus de 300 publications scientifiques et de nombreux chapitres d'ouvrages. Ses travaux ont été publiés d'ailleurs dans les plus grandes revues médicales, notamment The Lancet Global Health, le British Journal of Ophthalmology et plusieurs autres publications de référence en santé publique. Connu à travers le monde, mais aussi ici au Québec, le professeur Serge Resnikov a reçu en 2014, ça date quand même, en 2014, un doctorat honorificus causa de l'Université de Montréal pour souligner l'ensemble de sa carrière et de sa contribution à la lutte contre la cécité. Et l'établissement le présente comme un véritable champion de cette cause, reconnu non seulement pour ses qualités de médecin et de chercheur, mais aussi pour ses talents d'administrateur et de diplomate.
Aujourd'hui, nous allons voyager avec lui. Nous allons parler des pays qui l'ont marqué, des maladies qui menacent encore la vision de millions de personnes à travers le monde, des avancées extraordinaires de la recherche, de l'intelligence artificielle, de la prévention et de ce qui, malgré les défis, lui donne aujourd'hui encore de l'espoir.
Alors, je suis Nathalie Barrette, je suis voyante et depuis quelques années, je m'intéresse à tout ce qui touche à la déficience visuelle.
Et moi, je suis Bianca Lucier, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle et je vis, moi aussi, avec une déficience visuelle. Bienvenue à Y voir clair autour du monde.
Alors, on va s'entretenir avec Dr. Resnikov qui est avec nous, mais dans quelques instants avant, Bianca, je voulais voir tes recherches t'ont permis de dresser un portrait de la santé visuelle dans le monde. C'est quoi les chiffres qui t'ont marqué?
Les plus récents proviennent d'une mise à jour de l'Organisation mondiale de la santé qui a été publiée en février 2026, donc tout récemment, et qui s'appuie sur les plus récentes estimations mondiales qui sont disponibles. Donc, les chiffres vont dire, en fait, que 2,2 milliards de personnes vivent avec des limitations visuelles, de près ou de loin. C'est sûr que là, c'est ça qu'on va pouvoir aborder un peu plus aujourd'hui, mais des difficultés visuelles.
Okay.
Au moins 1 milliard de ces cas-là auraient pu être évités ou ne sont pas encore traités. Dans le fond, sont évitables. Ce qui représente une personne sur deux atteinte de limitations visuelles. Donc, c'est quand même non négligeable. Dans les pays où il y a un faible revenu, deux personnes sur trois qui auraient besoin de lunettes n'y ont pas accès.
Écoute, c'est assez aberrant les chiffres que tu me sors là. On va s'entretenir avec, après tout ce long préambule, on va s'entretenir avec le docteur Serge Resnikov. C'est un immense honneur de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Écoutez, merci beaucoup. C'est surtout moi qui vous remercie parce que c'est un immense plaisir d'être avec vous. Et vous avez, voilà, ça me rappelle aussi le temps que j'ai passé un petit peu au Québec et j'en garde vraiment un souvenir merveilleux, y compris sur le plan professionnel, en ce sens que c'est quand même un des endroits du monde où la déficience visuelle est probablement la mieux prise en charge. Mmh. Et ça mérite d'être souligné.
Ah, c'est intéressant, ça. Oh, oui. De quel point de vue vous trouvez que la déficience visuelle au Québec a une bonne prise en charge?
Parce que ça fait partie du système de santé, parce que le parcours de soins est parfaitement balisé, parce qu'il y a des professionnels qui sont formés, parce qu'il y a un système qui est mis en place. Et ça, c'est probablement quelque chose dont on va parler à plusieurs reprises dans cet entretien. Voilà, les systèmes, c'est très important. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des gens qui sont formés, mais il n'y a pas le système. Et il y a encore plus d'endroits où il n'y a ni système ni personne formée pour la prise en charge des personnes avec une déficience visuelle.
Docteur Resnikov, avant de parler de votre impressionnante carrière et surtout de la santé visuelle à travers le monde, je voudrais juste revenir au tout début. Vous avez grandi dans quel coin de pays, puis vous avez découvert et vous avez découvert cet intérêt-là pour l'ophtalmologie à quel moment dans votre vie?
Bon, ça peut être une histoire un peu longue que je vais essayer de raccourcir, mais voilà, je suis, comme mon nom l'indique, né à Paris, mes racines génétiques sont beaucoup plus à l'est. voilà, né à Paris, mais sans aucun gène français. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé, et si j'ai beaucoup voyagé, c'est parce que très tôt dans ma vie, j'ai été intéressé par ce qui était un peu l'ailleurs. Probablement en relation avec le fait que je suis un fils d'émigré. Voilà, j'ai toujours été assez sensible au mouvement des populations, aux échanges qu'il peut y avoir entre les cultures, aux différences qui sont souvent perçues comme un risque et qui sont pourtant une richesse incroyable. Voilà. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études dans une école militaire, en fait, en France, mais dont la caractéristique était d'envoyer des médecins sous forme de détachement dans des pays africains qui, à l'époque, avaient très peu de cadres de santé. Et donc, ça m'a rapidement amené à travailler hors de France. Et au départ, j'étais beaucoup plus intéressé en fait par la chirurgie reconstructrice, et j'étais particulièrement intéressé par la prise en charge de la lèpre. Vous voyez, ça
n'a
pas grand-chose à voir avec la vue.
C'est pas l'ophtalmologie dès le départ.
C'est pas l'ophtalmologie dès le départ, pas du tout. Et c'est en travaillant en Mauritanie où en fait il n'y a plus de lépreux. Et c'était très bien. Il y avait pas mal de césariennes à faire. Mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui venaient avec de très importants problèmes oculaires. Et un infirmier qui travaillait avec moi m'a dit, mais pourquoi tu n'opères pas ces gens-là? J'ai dit, je ne sais pas, ce n'est pas mon métier. Il m'a dit, mais tu sais, il y a un spécialiste à la capitale, tu devrais aller le voir, il va t'apprendre à faire des choses. Et j'ai suivi son conseil. J'ai toujours appris à suivre le conseil des infirmiers, des infirmières, qui souvent savent beaucoup plus de choses plus profondément que les médecins.
C'est bien de le reconnaître, docteur Resnikov.
Non, mais absolument. Enfin, je veux dire, tout ce que j'ai appris de leur part, c'est ce qui m'a beaucoup aidé plus tard. Et donc voilà, je me suis intéressé à l'ophtalmologie, je suis rentré en France, j'ai été formé en ophtalmologie et je suis reparti en Afrique. Et c'est vraiment, je veux dire, en Afrique où voilà, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai tout appris, voilà. J'ai une reconnaissance éternelle vis-à-vis de mes collègues africains, encore une fois, de différents métiers. Et c'est ça qui a forgé, ma carrière. Et c'est ça qui a fait que, finalement, j'ai travaillé à l'OMS.
Mm-hmm. Professeur Resnikov, on va parler justement de l'Afrique. Je trouve ça important d'en parler avec vous. Mais tout au long de notre entrevue, on va parler de cécité évitable. Alors, c'est une expression, du moins pour ma part, là, que j'entends occasionnellement, mais dont le sens n'est pas toujours compris pour tout le monde. Pour commencer, qu'est-ce qu'on entend exactement par cécité évitable? Vous allez en parler beaucoup durant notre segment où on va parler de votre travail en Afrique.
Bien sûr, ce qu'on entend par cécité évitable, en fait, c'est un terme qui est apparu à l'OMS, justement, au moment où on réfléchissait à qu'est-ce qu'on pouvait faire collectivement. Et à ce moment-là, c'était une réflexion entre l'OMS d'une part, des organisations non gouvernementales d'autre part. Mm-hmm. Ça a commencé comme ça. Et on cherchait à déterminer quel était le champ de ce qui était possible. Mm. Et dans ce contexte-là, très particulier, on s'était dit qu'il y avait un certain nombre de choses. Et c'était aussi parce que c'était pour la première fois qu'on avait des données épidémiologiques relativement détaillées sur ce qui se passait dans le monde. Et ces données montraient que, en fait, à peu près 90% des gens qui avaient perdu l'usage de la fonction visuelle auraient pu être soit évités, mm-hmm. ou alors ça pouvait encore être corrigé. Mm. Alors évidemment, c'est énorme. mais bien sûr, mais parce que c'était aussi le moment où on s'est rendu compte ce qu'on appelle les anomalies de réfraction, les vices de réfraction,
les besoins de lunettes,
les erreurs de réfraction, voilà, les besoins de lunettes, ce qui était considéré comme c'était pas considéré comme un problème, voilà, c'était juste il suffit d'une paire de lunettes, bon.
Mais il faut les avoir encore.
Il faut les avoir. Voilà. Et aujourd'hui, je veux dire, ça paraît complètement surréaliste, franchement. Aujourd'hui, 500 millions de personnes dans le monde n'ont pas une paire de lunettes pour lire. C'est incroyable.
C'est énorme. Mmh.
Voilà. Bon, ça paraît tellement simple. Mmh. Mmh. Ben ça paraît tellement simple quand on vit dans ici. Un pays voilà, où il y a des systèmes de sécurité, d'assurance maladie, de prise en charge sociale, de choses comme ça. Mm-hmm. Mais la majorité des personnes qui vivent sur la planète, l'énorme majorité, n'ont pas accès à ça.
On y pense pas, c'est incroyable.
Voilà, et souvent, elles ne savent même pas qu'en fait, avec une paire de loupe pour lecture, voilà, elle pourrait lire, elle pourrait mieux trier des grains de riz, elle pourrait mieux cueillir des feuilles de thé, elle pourrait travailler plus facilement dans une usine, par exemple. On ne sait pas qu'il y a une solution aussi simple. Après, il y a des gens qui savent, mais l'accès à des lunettes bon marché, c'est parfois très difficile parce que les lunettes qu'on va trouver en vente dans les magasins d'optique, etc., elles seront en fait très chères. Elles sont en fait trop chères parce qu'il n'y a pas de système d'approvisionnement, etc. Mm-hmm. Voilà, oui, il y a des choses quelque part aussi simples, qui paraissent aussi simples que ça. Et ça, j'insiste sur le fait que ça paraît simple parce que le jour où on veut corriger ça, on s'aperçoit que, en fait, il y a des quantités d'obstacles et ce n'est pas aussi simple. Et si c'était si simple que ça, ça serait réglé. Ouais. Après, je veux dire, il y a une autre grande cause de cécité évitable par traitement, c'est la cataracte.
Oui, qui peut être opérée.
Alors, Voilà, exactement. Alors, c'est l'intervention chirurgicale qui est la plus pratiquée dans le monde. C'est l'opération chirurgicale
de la toutes plus les opérations possibles
de toutes les opérations
sur le corps humain.
Okay. Exactement, la cataracte. Voilà. Et il y a des millions de personnes qui sont opérées chaque année, mais c'est pas assez. Et bon, probablement on y reviendra. Le problème est que il n'y a pas assez d'interventions qui sont faites, et malheureusement, trop souvent, le résultat de la chirurgie n'est pas ce qu'il devrait être.
Oh, donc des chirurgies qui ne sont pas nécessairement bien pratiquées?
Alors, elles sont la plupart du temps bien pratiquées, mais quand on opère de la cataracte, on remplace le cristallin que l'on enlève par une petite lentille en plastique.
Oui.
Qu'on appelle un implant intraoculaire. Et qui va donc remplacer... autrefois, on enlevait le cristallin et on mettait une grosse paire de lunettes avec des
verres très épais.
Très épais, difficiles à porter, qui donnaient une bonne acuité visuelle, mais qui... On avait... Voilà, c'était quand même pas très bon comme résultat. Aujourd'hui, au lieu de mettre des lunettes, on met quelque part l'équivalent des lunettes à l'intérieur de l'œil. Le problème est que dans beaucoup d'endroits, on n'a pas la puissance de la lentille qu'il faudrait compte tenu de l'œil que l'on opère. Et donc, on met ce que l'on a, on met ce qui est de plus proche.
L'implant intraoculaire, il est à peu près. Il n'y a pas tout à fait la bonne puissance.
Okay. Exactement. Okay. Et donc, la personne, une fois opérée, eh bien, elle va se retrouver avec une vision qui ne sera pas optimale et qui sera quelquefois peu différente de celle qu'elle avait avant d'être opérée.
Oh, okay.
La qualité de la vision sera bien meilleure, mais en termes de contraste, de couleur, etc. Mais, en fait, la personne ne verra correctement que si elle a une paire de lunettes en plus.
Ouais.
Et très souvent, cette paire de lunettes-là n'est pas disponible.
Okay. Mais docteur Resnikov, on parle beaucoup, on parle d'Afrique en ce moment. Je me pose la question.
Mais
vous parlez
d'Afrique.
En général. Si je reviens à l'Afrique, entre autres, parce qu'on a reçu récemment quelqu'un du Cambodge ou
du Cameroun.
Alors, je me pose la question, est-ce que les villes, parce que si on est en Afrique, pour avoir visité le Burkina Faso, je sais qu'à Ouagadougou, il y a probablement plus de services. Mais pour être allé en région, en campagne et tout ça, ils n'ont pas de services et ils ne peuvent pas se déplacer, les gens. Est-ce que les pays pauvres sont plus sujets à avoir des gens qui ont des problèmes de cécité?
Absolument. Il y a à peu près, je veux dire, en termes de prévalence, c'est-à-dire de fréquence, il y a 4, 5, 6 fois plus de personnes déficientes visuelles dans les pays à bas revenus.
Oh, oui, 6 fois plus. Puis, une question.
Ensuite, ça va dépendre. En fonction des causes, ça va être différent.
Vous avez type d'atteinte visuelle, c'est ça, oui.
Voilà, selon les causes. Alors, c'est clair que quand vous allez dans certaines régions, vous allez avoir certaines causes qu'on ne trouve pas ailleurs, qui vont donc venir se surajouter aux causes que l'on trouve partout.
Comme la cécité des rivières ou des choses comme ça?
Exactement, comme la cécité des rivières, comme le trachome, comme les carences en vitamine A. Ensuite, par exemple, pour les enfants, il va y avoir beaucoup plus de cas de rétinopathie des prématurés dans les pays où la prise en charge des prématurés n'est pas optimale.
Ouais.
Ou bien elle est peut-être optimale, mais il n'y a pas les équipements, la technologie qu'il faut pour examiner ces tout petits patients. Et éventuellement faire un traitement qui va leur éviter d'avoir des complications de leur prématurité au niveau des yeux.
Est-ce que vous pouvez...
Excusez,
je voulais juste savoir, faire une parenthèse pour expliquer aux gens qui nous écoutent la maladie des rivières qui est l'onchocercose, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Pouvez-vous l'expliquer brièvement, c'est quoi pour les gens qui nous écoutent?
Alors, il y a en Afrique, dans certaines parties d'Afrique, une maladie qui est due à un parasite qui s'appelle Oncocerca volvulus. Mm-hmm. C'est pour ça que la cécité des rivières s'appelle aussi l'oncocercose. Mm-hmm. C'est en fait ce sont des vers microscopiques qui vont se transmettre, qui vont être transmis d'un patient à l'autre par des petites mouches qui ressemblent aux maringouins que l'on trouve chez vous.
Mm-hmm.
Ils sont,
vous connaissez même l'expression qu'on utilise.
je l'ai appris en parlant avec des étudiants.
Les maringouins.
À Montréal, voilà.
Ouais,
en disant, c'est des petits moucherons qui piquent à une certaine période de l'année, c'est assez douloureux, etc. Voilà. Et en fait, c'est à peu près les mêmes. Mais bon. Là, il y en a une variété qui se développe particulièrement dans les pays chauds et dans des rivières où il y a un courant avec une certaine vitesse. Voilà, il faut qu'il y ait un environnement très particulier.
Mm-hmm.
Mais les gens qui vivent dans cet environnement-là sont particulièrement exposés à cette maladie parasitaire. Donc, le parasite va en fait attaquer les yeux, toutes les parties de l'œil.
Toutes les parties.
Et historiquement, dans certains villages, il y avait jusqu'à 75% des adultes qui étaient totalement aveugles à partir de l'âge de 45 ans.
C'est dégénératif.
Absolument terrible.
Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup, docteur Resnikov?
Non, il y en a beaucoup moins parce qu'on a trouvé un médicament qui s'appelle l'ivermectine ou le mectisan.
Mm-hmm.
Et heureusement, le laboratoire qui produit ce médicament, qui est le laboratoire Merck, depuis une trentaine d'années maintenant, a fait une donation de ce médicament pour lutter contre l'oncocercose.
Excusez-moi, je vous interromps, parce que hier, vous m'avez dit 60% des gens de 45 ans et plus dans certains villages.
C'était plus de 70%.
C'est dans quel pays, ça, qu'il y a eu ça?
Alors, c'était les pays essentiellement d'Afrique occidentale. Vous avez mentionné le Burkina Faso. Mm-hmm.
Oui, l'Afrique francophone, beaucoup subsaharienne, c'est ça?
Oui, mais aussi anglophone.
Anglophone aussi,
puisque, je veux dire, grosso modo, c'était une ceinture partant, disons, du Sénégal, du Libéria, de la Guinée.
OK.
Et allant vers... Vers l'Est.
Vers l'Est aussi, c'est ça, OK.
Voilà, toute cette partie, disons, de la savane. Et c'est dans cette partie-là que c'était le plus important. C'est là aussi où la lutte a commencé. Le Mali, par exemple, était très touché. Le sud du Niger, toute la partie nord du Nigeria, par exemple, hein, ce qui est quand même énorme. Hein.
Mm-hmm.
Mais voilà, le nord du Ghana, une partie de la Côte d'Ivoire, et jusqu'au Tchad, jusqu'au Soudan, et même jusqu'à l'Éthiopie. Voilà.
C'est large.
Toute cette ceinture-là.
Quand vous arriviez dans un pays comme le Mali, justement le Tchad ou peu importe, concrètement, quel était votre mandat?
Eh bien, mon mandat, c'était assez simple. Le gouvernement français payait mon salaire et j'étais mis à la disposition du ministère de la Santé du pays où je me trouvais.
Okay.
Ça a été mon cas comme ça en Mauritanie, au Mali. Au Tchad, à Djibouti. Quand j'étais au Mali, par exemple, j'étais responsable d'un institut qui travaillait, qui formait des médecins en ophtalmologie, des infirmiers en ophtalmologie, des techniciens lunetiers pour l'ensemble de l'Afrique francophone.
Okay.
Quand j'étais, par contre, par exemple, au Tchad, j'étais le ministère de la Santé du Tchad m'avait confié le service d'ophtalmologie de l'hôpital central de N'Djamena, qui à l'époque était le seul hôpital et c'était le seul service d'ophtalmologie du pays. Mmh. Alors, il y avait par contre déjà un certain nombre d'infirmiers spécialistes en ophtalmologie qui avaient été formés à Bamako d'ailleurs, avant que j'y sois. Et qui faisait un travail absolument remarquable dans des pays comme Sahar, Moundou, etc. Et moi, je travaillais à N'Djamena, mais j'allais de temps en temps aussi opérer dans les endroits où je prêtais main forte aux infirmiers qui étaient installés dans des villes secondaires. Et ça rejoint le commentaire que vous avez fait tout à l'heure en disant que il y a beaucoup plus de services qui sont concentrés au niveau des capitales et beaucoup moins en périphérie. C'était extrêmement marqué à l'époque. Ça l'est malheureusement encore. Okay. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup plus de services dans les capitales et dans les grandes villes qu'en zone rurale. Mais c'est pas quelque chose qui est propre à l'Afrique. Hein. C'est quelque chose qu'on trouve en Europe.
Ouais.
C'est quelque chose que l'on trouve en Asie. Voilà, il y a une différence colossale entre les capitales et les zones rurales.
Avec le recul, en quoi toutes ces années passées sur le terrain en Afrique vous ont préparé à votre arrivée avec l'OMS? Parce que je veux qu'on en parle au retour de la pause, votre rôle au sein de l'Organisation mondiale de la santé.
Alors, la raison qui m'a fait amener à l'Organisation mondiale de la santé, c'est que quand j'étais responsable de l'institut à Bamako, qui s'appelle IOTA, l'Institut pour l'ophtalmologie tropicale en Afrique. Grâce à l'appui des collègues à Genève, on a transformé cet institut en centre collaborateur de l'OMS. Et donc, il y avait un lien, une connexion qui s'est créée pour moi personnellement, mais aussi institutionnellement pour cet institut. Parce que justement, l'idée était que cet institut serve quelque part de lieu où les gens pouvaient être formés selon les directives de l'OMS, c'est-à-dire en étant sûr que la façon dont on formait les gens, on les formait aux meilleures pratiques possibles de l'époque. Voilà, c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça l'idée.
Et puis, écoutez, on va passer à une pause, une courte pause. Et puis, on revient avec vous et on continue de parler de l'Organisation mondiale de la santé. Mais je veux aussi surtout parler de la santé visuelle à travers le monde. Alors, on se retrouve dans quelques minutes.
Vous écoutez Y voir clair avec Bianca Lucier d'Alpé et Nathalie Barrette.
Nous sommes de retour à Y voir clair autour du monde en compagnie du docteur et professeur Serge Resnikov, qui est ophtalmologiste, chercheur et l'un des experts internationaux en santé oculaire et en prévention de la cécité. Alors, on va poursuivre en parlant de son travail auprès de l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une décision, un programme ou une réalisation dont vous êtes particulièrement fier parce qu'il y a eu de votre travail à l'OMS? Est-ce qu'il y a un programme? Parce qu'on va parler tantôt de Vision 2020, mais vous particulièrement.
Écoutez, je crois que ce qui est important pour moi, c'est d'insister sur le fait que mon travail à l'OMS, ça a été un travail totalement collectif. Quand on est à l'OMS, c'est un énorme privilège, enfin je trouve,
oui.
Parce qu'on est connecté à la planète, mais on est aussi au service des ministères de la Santé. Ça, c'est très important, je pense, à garder présent à l'esprit. L'OMS, c'est avant tout un organisme qui recueille, met en forme les connaissances existantes. Il y a quelques experts qui travaillent à l'OMS, mais l'OMS, ça fait surtout travailler de l'intelligence collective. Lorsqu'il y a des documents qui sortent, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, c'est toujours une espèce de distillation de l'expertise que l'on trouve à travers le monde. Alors, ça finit par ressortir sous forme d'un document estampillé avec le logo de l'OMS, mais voilà, c'est le produit de la richesse intellectuelle, technique de l'ensemble de la communauté de la santé visuelle dans ce cas précis. Ça peut être de la santé maternelle et infantile d'un autre, et ainsi de suite. Mais voilà, l'OMS, c'est le réceptacle de l'expertise mondiale. Mmh. Et ça, c'est, je pense, important à garder présent à l'esprit. Alors, bien sûr, tout ça, après, ça finit quelque part par des réunions à Genève, mais voilà, c'est l'OMS travaille toujours en faisant très attention à ce que l'ensemble de la planète contribue. Mmh.
Mais vous
ça,
avez...
c'est quelque chose de merveilleux.
Mais vous avez tout de même contribué à l'initiative Vision 2020, si vous pouvez l'expliquer, mais qui, en fait, ça visait à éliminer la cécité évitable.
Vision 2020.
Voilà, cécité évitable. Vision 2020, c'est ça.
Exactement. C'était le droit à la vue, l'initiative mondiale pour l'élimination de la cécité évitable. Parce que l'idée, c'est de se dire, on peut opérer des cataractes, on peut donner des lunettes, on peut prévenir les complications de la rétinopathie diabétique, on sait comment éliminer le trachome, on sait comment éliminer l'onchocercose. Enfin voilà, on peut éliminer à peu près 9 causes de déficience visuelle sur 10 si on fait ce que l'on sait faire. Voilà, il s'agit pas de se dire voilà, on va mettre en place un programme de recherche pour savoir comment il faut
opérer. On sait comment, c'est de l'appliquer maintenant, hein,
on sait ça. Comment exactement il faut le faire. Et il y a eu ça a été un moment très très riche, parce qu'il y a eu vraiment une volonté de faire des choses ensemble, notamment avec un certain nombre d'organisations non gouvernementales, de pays qui se sont impliqués, de fondations. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été traduites par des améliorations un peu partout dans le monde. Le problème qui s'est posé, c'est que quand on a commencé à mesurer, on s'est aperçu que la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de personnes avec une déficience visuelle évitable n'avait pas vraiment diminué. Et la raison pour cela, c'est pas parce qu'il y a eu, c'est parce que la planète vieillit.
Ah.
Et la planète vieillit
la démographie.
Plus rapidement.
OK.
La démographie.
Fait qu'on l'a stabilisé d'une certaine façon, mais ouais.
Les progrès que l'on faisait n'allaient pas aussi vite
que le vieillissement.
Que la planète vieillissait.
Oh, c'est intéressant. Voilà. OK. Les progrès ont quand même aidé.
Quand on regarde. Exactement, parce que quand on regarde ce qu'on appelle la prévalence ajustée sur l'âge. C'est-à-dire, c'est la proportion de personnes qui sont déficientes visuelles. Si la pyramide des âges n'avait pas changé, on aurait eu une réduction de l'ordre de 25 à 30% sur une période de 20 ans.
Puis je vous écoute, docteur. J'allais vous poser une question, mais continuez, je vais vous la poser après.
Voilà. Or, la planète a vieilli beaucoup plus rapidement. En plus de cela, il y a eu des changements dans les modes de vie, et notamment au niveau du diabète, par exemple, qui est une maladie qui est très liée au mode de vie. Le diabète a beaucoup augmenté.
Ouais.
La myopie aussi a beaucoup augmenté en raison du fait que les enfants passent moins de temps dehors, passent plus de temps à l'intérieur, passent plus de temps sur des écrans, etc. Et ça, c'est un autre problème très important.
L'industrialisation.
Le Vision 2020 n'a pas été aussi efficace qu'on l'espérait, non pas parce qu'on n'a pas fait bien, mais parce que on s'est trouvé face à un tsunami de vieillissement.
Ça l'aurait vraiment beaucoup empiré, c'est ça. Ce que je me demandais, c'est dans les pays où il y a eu des grandes avancées, c'est qu'est-ce qui a favorisé les avancées? Est-ce que c'est le mode de vie où il y a certains traitements où on a réussi à corriger la réfraction d'avoir des lunettes? Les endroits où ça s'est bien passé, c'est quoi qui faisait en sorte que ça pouvait bien se passer, les améliorations?
Alors, c'est très, très directement lié au développement économique et social. Dans ce développement économique et social, il y a une combinaison de davantage de personnes formées, de davantage d'accès aux soins de qualité, d'une meilleure hygiène de vie. On le voit très particulièrement avec des maladies comme le trachome, par exemple. Le trachome a disparu sans qu'on fasse sur le plan médical d'un très grand nombre de pays. Mm-hmm. Mais il persiste encore dans une trentaine de pays. Il a été éliminé assez récemment dans une trentaine de pays avec une combinaison de développement social et économique et aussi de la mise en place des traitements, de la formation des gens pour faire les traitements. Voilà, c'est cette combinaison-là qui fonctionne.
C'est le développement économique et social qui est à la base de toute amélioration.
Exactement.
OK.
Exactement. Alors, il y a des endroits où, justement, même si ce développement n'a pas atteint le niveau qu'il a dans d'autres pays, en faisant les bonnes choses, avec les bonnes personnes, avec les moyens qu'il faut, on arrive à accélérer. On arrive à aller au-delà de ce que l'on aurait pu attendre en regardant simplement le développement économique et social. Mais ça nécessite des ressources. Ça nécessite de l'argent.
Docteur Resnikov, tantôt, vous avez abordé le sujet de la myopie. J'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que, on parle d'une progression fulgurante de la myopie. Et c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Et j'ai fouillé un peu, puis les données montrent vraiment que la prévalence de la myopie augmente rapidement, mais dans nombreuses régions du monde, particulièrement, comme vous l'avez mentionné, chez les enfants et les adolescents. Et cette hausse-là est observée en Asie de l'Est, mais aussi en Europe, en Amérique du Nord et dans plusieurs autres régions. Est-ce qu'on parle d'épidémie ici ou...
Oui, on parle d'épidémie. Et ce n'est pas un abus de langage parce qu'une épidémie, par définition, c'est une augmentation de la prévalence relativement soudaine et importante, significative, de la prévalence d'une maladie. Mm-hmm. Et c'était le cas de la myopie. Alors, c'est vrai que quand on regarde le monde, il y a l'Asie de l'Est, où le problème est considérable, et il y a le reste du monde où le problème se développe. Probablement pas à la vitesse ni jusqu'au niveau de l'Asie de l'Est, et on pourrait discuter pourquoi il y a cette différence, mais même ailleurs, partout ailleurs, la myopie augmente. Le problème de la myopie, ce n'est pas seulement le fait qu'il faille la corriger avec des lunettes. Mmh, le problème de la myopie, c'est que dès qu'on dépasse des myopies faibles, on rentre très rapidement dans des niveaux qui représentent un risque important pour la santé oculaire, décollement de rétine, de dégénérescence myopique, mais aussi de glaucome, par exemple, et aussi de cataracte. C'est-à-dire que la myopie, très rapidement, représente un risque important. Alors après, c'est comme tous les risques. Si on est proprement suivi, on peut prévenir le décollement de rétine, et ainsi de suite. Bon, la myopie est déjà une des causes de cécité. Alors là, du coup, on n'est plus dans la cécité évitable. Elle n'est plus évitable. C'est une cause de malvoyance. C'est une grande cause de nécessité d'accès à la réhabilitation visuelle. Mm-hmm. C'est déjà le cas en Asie. C'est en train de se produire dans beaucoup de pays d'Europe et d'Amérique du Nord. et je ne serais pas étonné que ce soit le cas déjà au Canada.
Puis, peut-être...
Et, si on ne fait rien maintenant, ça sera pire.
Il y a deux questions. Il y a deux questions que je me pose en vous écoutant. D'une part, c'est est-ce qu'on a une idée, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Est-ce que c'est le mode de vie? Et si c'est le mode de vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la myopie à un jeune âge?
Alors là, on sait, là aussi, on est dans un domaine. C'est clairement. Alors, bon, il y a une part génétique. Deux parents myopes ont plus de chances d'avoir un enfant myope qu'un seul parent ou pas de parents myopes du tout. Mais c'est essentiellement un problème environnemental, de mode de vie, etc. Aujourd'hui, on sait que la meilleure façon de retarder ou d'éviter l'apparition de la myopie chez les enfants, c'est de leur faire passer au moins 90 minutes par jour à l'extérieur.
OK. Et 90 minutes. Et pourquoi?
Jouer dehors, y compris pendant les récréations à l'école.
Est-ce que c'est pour la distance à laquelle les enfants vont regarder?
Alors, là, on sait un peu moins bien.
OK.
Est-ce que c'est probablement une combinaison de la lumière,
okay.
de la lumière du jour.
Qui aurait un facteur protecteur sur...
Voilà.
Ah ouais.
Et ce que... Regarder de loin et ce que l'on regarde.
Ce que l'on regarde.
Oui, regarder un paysage avec beaucoup de détails, un effet protecteur par rapport à regarder un mur gris.
C'est fascinant, ça. C'est comme si la vision voilà. est plus stimulée, peut-être.
Exactement.
OK.
Exactement. Voilà. Alors, c'est pour ça que quand les enfants sont dehors, c'est beaucoup mieux.
Ah, okay.
Et alors, autrefois, moi, les enfants de mon âge ont passé beaucoup de temps dehors, à jouer au ballon, à courir, y compris dans les rues, etc. Aujourd'hui, le mode de vie a changé. On a des fois, on a peur, qu'est-ce qui va arriver aux enfants, etc. Et puis, voilà, les petits, il faut pas qu'ils soient trop dehors, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid.
Surprotection,
voilà.
qu'on appelle, docteur Resnick.
Voilà, ça peut être ça.
Mais je trouve ça vraiment intéressant à vous écouter, parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des causes de cécité qui disparaissent et d'autres qui apparaissent, puis que le
Exactement.
Développement économique va en favoriser certaines et en réduire d'autres.
Exactement. Et c'est, là, vous mettez le doigt pourquoi je m'intéresse aujourd'hui à la myopie, c'est parce que... Je me suis beaucoup intéressé au trachome, ça a été le début de ma vie. C'est ce qui m'a amené à faire de l'ophtalmologie. Et aujourd'hui, je suis toujours très impliqué, mais voilà, là on est en train de gagner la bataille. Et là, je vois une autre bataille à mener.
Mm-hmm.
Et voilà, on sait quoi faire. Alors la différence, pourquoi plus en Asie de l'Est et un peu moins? Mais quand même de l'ordre de 30 ou 40% chez nous. Je veux dire, un problème qui touche 30 à 40% d'une génération d'enfants, voilà, il n'y a pas besoin que ça soit 90% quand même.
Oui, c'est déjà significatif, là, ben oui.
C'est déjà beaucoup trop. voilà. Enfin, ce qui est déjà beaucoup trop quand ça atteint des chiffres de myopie élevés, c'est ce qui se passe quand la myopie commence tôt. Parce que plus elle commence tôt, plus elle a d'années pendant lesquelles elle va... progresser jusqu'à ce qu'elle s'arrête à la fin de la croissance.
Ah ouais, on veut la retarder, hein, c'est ça.
Voilà, exactement. On sait quoi faire, et la différence entre les deux, c'est que probablement le système éducatif en Asie, dans des pays comme la Chine, Hong Kong, la Corée, le Japon, etc., sont des systèmes éducatifs d'une incroyable intensité.
Ah, plus de temps devant les
enfants,
écrans, ouais.
Moins et d'or. Pas seulement les écrans. Je veux dire, pour apprendre à écrire le chinois, il faut apprendre en 5000 caractères.
Ouais.
C'est beaucoup plus que nos 26 lettres.
Oui, effectivement. beaucoup de détails aussi. Hein?
oui, et puis je veux dire, il y a une pression sociale aussi sur les enfants d'excellence à l'école, dès l'école
très jeune.
Élémentaire.
Ouais.
Très jeune, très très jeune. Mm-hmm. Et c'est probablement ça, la différence fondamentale qui explique les trajectoires différentes entre ce qui se passe en Asie de l'Est et dans le reste du monde.
Mmh. Justement, vous avez... Oh, excusez.
On a aussi une pression chez nous qui augmente.
Oui. J'allais vous poser comme question, vous avez voyagé beaucoup, mais est-ce qu'il y a un pays qui représente, selon vous, un modèle en matière de prévention ou d'organisation des soins oculaires? Parce qu'on parle des pays où il y en a beaucoup où ça va pas bien, mais au contraire, à l'inverse, il doit y avoir des pays qui représentent des modèles en matière de prévention.
C'est une question très difficile. C'est une question que je me suis beaucoup posée et que je me pose beaucoup. Et alors, si vous voulez, encore une fois, on revient à la même chose. Plus on monte dans l'échelle du développement humain, disons, plus la prévalence de la cécité diminue, etc. Donc il y a un parallélisme entre le développement économique et social.
Éviter la cécité.
Donc il y a ça.
Okay.
Ensuite, il y a des domaines dans lesquels certains pays sont excellents. Et au début de notre entretien, je disais, voilà, je trouvais que le Québec, alors je ne connais pas bien le reste du Canada, est particulièrement bon, par exemple, pour organiser tout ce qui est la prise en charge des déficiences visuelles, en particulier dans le champ de la réhabilitation, de la réadaptation, etc.
Elle est au niveau de la santé. Hein? Il y a beaucoup de pays où ce sont des organismes ou des associations, tandis que nous, c'est intégré à notre réseau de la santé.
Exactement. C'est précisément ça. Il y a un pays comme la Thaïlande, par exemple, qui a très bien organisé son système de santé oculaire, etc. Bon,
c'est intéressant, OK.
Voilà, la Thaïlande, la Malaisie sont deux pays qui font très bien. Ils font mieux que Myanmar, par exemple, qui est pourtant juste à côté. Mais bon, ils ne sont pas non plus au même niveau de développement socio-économique. Mm-hmm. Voilà. Après, je veux dire, il y a un pays comme l'Inde où il y a des pôles d'excellence, il y a des centres qui fonctionnent incroyablement bien, comme le Elvi Prasad Institute, comme le Aravind, enfin tout ça. Bon. Oh. Mais ça ne couvre pas forcément la totalité de l'Inde.
Il y a peut-être de la disparité, là, on imagine. Ouais.
Voilà, il y a aussi de la disparité. En Chine, il y a des progrès considérables, mais là aussi, il y a des provinces qui sont beaucoup mieux loties que d'autres. Mm-hmm. Tout ce qui est à l'ouest de la Chine performe beaucoup mieux que ce qui est à l'est de la Chine, plutôt, la partie littorale. Voilà, ainsi de suite. Si on prend l'Europe, l'Europe est plutôt bien lotie, mais là aussi, il va y avoir des disparités. Mais c'est là où j'en reviens, c'est les pays qui arrivent à mettre en place un système de santé oculaire intégré dans le système de santé en général, c'est ceux-là qui font le mieux.
Puis, c'est une question que je me pose, que je ne sais pas si vous pourriez me répondre, mais dans les pays où il y a de la cécité ou de la malvoyance, qui est partout dans le monde, est-ce que vous avez remarqué que la qualité de vie des personnes atteintes allait être plus affectée? Est-ce que, par exemple, quand vous êtes allé en Afrique, vous avez vu, bon, on a beaucoup de personnes avec déficience visuelle, est-ce que vous saviez si ces personnes-là étaient bien intégrées à la société ou c'est des personnes pour qui la vie, c'était difficile, il y avait beaucoup de précarité? Est-ce que ça, vous savez, vous avez une idée de à quel point, dans les différents pays, la situation ou la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle peut varier?
C'est, encore une fois, c'est une question très difficile pour moi de répondre parce que oui, il y a des choses que j'ai observées. Oui, j'ai plutôt tendance à... J'ai l'impression que les pays où l'intégration communautaire est importante, ça se passe mieux. Mais en même temps, c'est une question... J'ai toujours un souci un peu scientifique et de donner
des faits.
De répondre comme ça sur des je préfère les choses que l'on mesure et je sais pas, j'ai pas je, oui, je suis désolé,
je suis consciente de ma question. Voilà. Vous savez, moi, je travaille en réadaptation, puis j'ai souvent des usagers avec des personnes qui ont des déficiences visuelles qui viennent de partout, puis des fois les gens vont me dire, J'ai un usager qui m'a dit la semaine dernière, c'est beaucoup plus facile d'avoir une déficience visuelle au Québec qu'au Cameroun. Puis quand j'entends des choses comme ça, ça me fait beaucoup réfléchir sur, tant qu'à avoir une déficience visuelle, où voudrait-il mieux être né?
Bon, je pense, clairement à Montréal. Ou...
je suis né au bon endroit dans ce cas-là.
Oui, totalement. Mais vous savez, je vais vous donner un exemple personnel. Hein. Mon épouse est déficiente visuelle.
Ah oui?
Parce qu'elle a pris, elle a suivi les règles, les recommandations de l'OMS. Et elle a pris des antipaludéens de synthèse aux doses qui étaient préconisées. Malheureusement pour elle, elle doit avoir un déficit génétique qui fait qu'elle métabolise moins bien la chloroquine
C'est ironique
que la plupart des gens.
Okay.
Voilà. Et c'est au moment où elle devenait presbyte, les lunettes ne la corrigeaient pas bien et je l'ai examinée et en l'examinant j'ai vu qu'elle avait au niveau de la rétine des dépôts pigmentaires tout à fait caractéristiques de ça. Bon, elle a arrêté de prendre de la chloroquine à ce moment-là, mais bon, aujourd'hui elle est déficiente visuelle.
Ça ressemble à la rétinite pigmentaire?
Aujourd'hui même.
Ouais. Ok.
Voilà. Aujourd'hui même, elle est allée consulter un ophtalmologiste. J'ai la chance d'habiter dans le Val-de-Loire. Il y a un ophtalmologiste à côté où on arrive à avoir rendez-vous sans s'y prendre un an à l'avance.
Ça, c'est bien.
pour avoir un certificat médical pour justement être inscrit ensuite comme déficiente visuelle. Voilà.
Ouais.
Donc, vous voyez, et c'est un petit peu le parcours du combattant ici en France, je pense, comparé à ce qui se passe au Québec. Voilà. Mais voilà, c'est possible.
J'arrive, docteur Resnikov, encore avec une question difficile, je crois. L'entrevue tire à sa fin, mais j'aimerais vous demander, avec le recul, quel est, selon vous, le plus grand progrès réalisé en santé visuelle au cours des 40 dernières années?
Ouf, c'est une question difficile parce qu'en fait, non, c'est plutôt l'embarras du choix.
Tant mieux.
C'est plutôt l'embarras du choix. Oui. Parce que il y a eu des progrès dans à peu près tous les domaines de l'ophtalmologie, des progrès très importants. Que ce soit les anti-VEGF, c'est-à-dire tout ce qui permet de prendre en charge les personnes qui ont une dégénération maculaire liée à l'âge, au moins les formes humides.
Ok, ouais.
Médicaments qui sont aussi utiles dans la prise en charge des rétinopathies diabétiques, le développement des lasers, les progrès dans la chirurgie de la cataracte. Je veux dire, en 40 ans, on est passé de l'extraction intracapsulaire et des grosses lunettes à des implants intraoculaires qui permettent de voir aussi bien de loin et de près, etc. Il y a eu des progrès considérables pour la prise en charge des enfants. Il y a eu des progrès considérables. Voilà, on sait comment... retarder ou éviter la myopie. On a mis en place il existe des lunettes de freination de la myopie. Si je prends les maladies tropicales, on a l'accès à l'ivermectine grâce aux dons des laboratoires Merck, grâce à la mise en place des organisations non gouvernementales qui travaillent dans les pays où il y a la cécité des rivières. Dans le domaine du trachome,
docteur Resnikov, je dois vous interrompre parce que l'entrevue tire vraiment à sa fin, mais une question que je voulais savoir rapidement. Là, on vient de parler de ce qu'il y a eu comme avancée, puis c'était difficile de choisir. Moi, j'aimerais voir, quand vous portez votre regard vers l'avenir, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir de continuer à améliorer? Est-ce que c'est plutôt la thérapie génique? Est-ce que c'est plutôt les implants? Qu'est-ce que, peut-être autre chose, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir?
Alors, bien sûr, il y a la thérapie génique, les implants et tout ça. Mais il y a aussi le développement des systèmes de santé oculaire. Il y a le fait qu'il y a une prise de, je pense, on travaille beaucoup pour que, notamment, les décideurs politiques comprennent que la vue, c'est quelque chose qui est important sur le plan individuel, mais aussi sur le plan économique, sur le plan social, etc. Et au mois de novembre, il y aura un sommet mondial sur la santé visuelle où on va inviter les chefs de gouvernement, les ministres de la Santé, etc., pour débattre de cela, parce qu'il faut absolument qu'il y ait davantage de ressources qui soient consacrées à la santé visuelle, pour la recherche, mais aussi pour le développement des systèmes de santé visuelle intégrée au système de santé. Et c'est comme ça qu'on y arrivera.
Professeur Resnikov, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expérience, votre expertise et votre vision de la santé visuelle à travers le monde. Je me sens privilégiée. On se sent privilégiée de vous avoir jasé aujourd'hui. Un grand merci également à ma collègue Bianca Lucier Dalpé pour sa précieuse collaboration, encore une fois. Tout au long de l'entrevue, Bianca, merci. Merci à Patrick Favreau qui est à la mise en onde aujourd'hui à cette émission. Et surtout, merci à vous tous d'avoir écouté notre série balado « Y voir clair autour du monde ». Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission. Et encore une fois, M. Resnikov,
merci beaucoup.
Merci, c'était un plaisir.
C'était un plaisir.